Il est 8h.
Ici, c'est chez moi, c'est de là que je viens. Et quand il me demande si j'ai peur, je n'ai pas peur.
Il n'a pas peur de Poutine, mais Alexeï Navalny a été arrêté à peine arrivé en Russie. Son avion dérouté vers un autre aéroport. Le sort du principal opposant au Kremlin indigne les États-Unis et toute l'Europe. À la une également la semaine de Joe Biden. Il sera investi mercredi dans une capitale, Washington, verrouillée par des milliers de militaires en armes. Reportage sur place et le portrait de celui qui s'apprête à diriger la première puissance mondiale, avec Sonia Dridi qui a rencontré tout son entourage. Et puis 57 nouvelles étoiles au guide Michelin. Les lauréats seront dévoilés à la mi-journée. Mais attendez, on parle bien de restaurants. Ces lieux fermés depuis presque 6 mois en un an. Eh bien oui, le patron du guide nous dira pourquoi et comment l'édition 2021 est tout de même publiée.
Juste après ce journal, c'est donc Jack Lang, le président de l'Institut du Monde Arabe, qui répondra en direct aux questions de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait demandé à ses partisans de venir l'accueillir à l'aéroport. Ce sont les policiers qui lui ont finalement tenu compagnie. Alexeï Navalny, dont la dernière escale sur le sol russe, le 20 août, était un arrêt d'urgence en Sibérie. Soigné 48 heures, il sera ensuite évacué dans le coma vers Berlin, où plusieurs laboratoires diagnostiqueront un empoisonnement au Novichok, un neurotoxique inventé à l'époque par l'Union soviétique.
Alexeï Navalny, c'est le principal opposant à Vladimir Poutine, le seul qui émerge vraiment dans son pays et au niveau international. Il a choisi hier de rentrer à Moscou, sûr de lui. Voilà ce qu'il déclarait quelques instants avant d'être arrêté.
Ici, c'est chez moi, c'est de là que je viens. Et quand il me demande si j'ai peur, je n'ai pas peur. Je vais maintenant me rendre au contrôle des passeports en toute tranquillité. Je vais sortir et rentrer chez moi parce que je sais que j'ai raison et que les affaires criminelles lancées contre moi sont fabriquées de toutes pièces.
Alors, on lui reproche officiellement d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis en 2014 pour détournement de fonds. Cette arrestation suscite en tout cas de vives réactions. Il doit être libéré immédiatement, déclare le futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan.
En direct de Bruxelles, bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
On observe depuis hier soir en Europe une pluie de réactions scandalisées.
Oui, au nom des 27, le président du Conseil européen juge l'arrestation inacceptable. Charles Michel réclame la libération immédiate d'Alexeï Navalny. Le chef de la diplomatie européenne demande le respect des droits de l'opposant. Josep Borrell dénonce la politisation du système judiciaire russe. Le président du Parlement européen dénonce, lui, une offense à l'Europe qui a aidé à sauver la vie de Navalny. Enfin, le Quai d'Orsay précise de son côté que la France suit le dossier en lien avec ses partenaires européens, avec la plus grande vigilance. Les chefs d'État ont un sommet européen prévu jeudi soir.
Alors Isabelle, au-delà de ces communiqués ou de ces phrases, les dirigeants de l'Europe ont-ils des moyens de pression concrets sur la Russie ?
Des moyens de pression immédiates et efficaces, non. Ce qu'ils ont à leur disposition, ce sont des sanctions. D'ailleurs, les trois pays baltes les réclament déjà. Mais elles prennent toujours du temps à être décidées et mises en place. Par exemple, Navalny avait été empoisonné en août. Les sanctions ciblant six responsables russes ont été mises en place à la mi-octobre seulement. Ce sont des interdictions de séjour et le gel de leurs avoirs en Europe. Vu ce qui s'est passé hier, ça n'a pas l'air de beaucoup impressionner Vladimir Poutine.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
En France, c'est enfin le top départ maintes fois promis de l'accélération sur le vaccin contre le Covid. Plus de 6 millions de personnes peuvent théoriquement se faire vacciner à partir d'aujourd'hui dans les 833 centres dédiés. Il s'agit des plus de 75 ans et des personnes atteintes de pathologies à haut risque.
Aux États-Unis, on est à deux jours de l'investiture de Joe Biden, événement qui rassemble habituellement des centaines de milliers d'Américains à Washington.
Mais cette fois, entre crise sanitaire et risque sécuritaire, bien sûr, la capitale fédérale a des airs de camp retranchés, comme nous le raconte l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon.
Sur Pennsylvania Avenue, on n'entend plus que le bip inutile des feux rouges. Au bout de l'artère déserte, le Capitole est désormais enfermé dans une cage d'acier protégée par des militaires et des blindés. Checkpoint, garde nationale, police, secret service, tout le centre-ville est bunkérisé. La seule fois qu'on a vu ça, c'était après le 11 septembre, raconte Hélène qui promène son chien entre deux rues fermées. Mais là, ce qui est différent, dit-elle, c'est qu'on doit se protéger de nos propres concitoyens. Cette ambiance zone de guerre désole Joy qui manifeste toute seule avec son panneau anti-Trump. Ça me brise le cœur, dit-elle. Regardez ce monde que Trump a créé. Pam, elle aussi est triste, mais parce qu'on va lui enlever son président. Trump, une bonne personne, dit-elle, persuadée qu'on lui a volé l'élection. Sinon, pourquoi y a-t-il 25 000 soldats ici? Seul Lewis semble joyeux avec son t-shirt « Fuck Trump ». Une fois qu'il sera parti, dit-il, tout ça, les barricades, ça va disparaître. Alors oui, ce vétéran de l'armée est venu célébrer et dire à Donald Trump
« so long, farewell.
Au revoir, adieu
and don't ever come back.
Et ne reviens jamais ». Washington, Xavier Yvon, Europe 1.
Et pour Joe Biden, c'est bien sûr le rêve d'une vie qui se réalise après presque 50 ans passés en politique. Mais on connaît finalement assez peu celui qui était le vice-président de Barack Obama.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Vous êtes également en ligne de Washington pour Europe 1. Joe Biden aime avant tout se présenter comme un homme ordinaire, proche du peuple.
Oui, middle class Joe, classe moyenne, c'est le surnom qu'il aime se donner. Joe Biden a grandi à Scranton, dans l'industrielle Pennsylvanie, avant de déménager dans le Delaware où son père vendait des voitures. Il a passé un été comme maître nageur à la piscine d'un quartier noir. C'est là qu'il commence à s'intéresser à la question des droits civiques et qu'il rencontre Richard Smith, l'un de ses plus anciens amis.
He's a people person. C'est quelqu'un qui aime les gens. Si vous lui donnez votre nom une fois, il s'en rappellera. Dans un an, dans trois ans. Vous n'avez pas l'impression que c'est un grand homme politique. Il est normal, comme nous.
Biden a placé l'empathie au cœur de sa campagne et parle souvent de ses tragédies personnelles. À 30 ans, à peine élu sénateur, il perd sa première femme Nelia et leur petite fille de 13 mois dans un accident de voiture. Ses deux fils survivent. Il pense au suicide. Il remonte finalement la pente et passera 36 ans au Congrès. Il s'y occupe surtout des dossiers de politique étrangère, mais comme le rappelle son futur secrétaire d'État Anthony Blinken, il négocie aussi beaucoup avec les républicains pour faire adopter un certain nombre de lois comme celle contre les violences faites aux femmes dans les années 90.
C'est lui qui a créé, à part cet acte, le hotline qui existe pour que les femmes en danger puissent appeler au secours, chose dont il est probablement le plus fier.
Depuis ses années au Sénat, puis à la Maison-Blanche comme vice-président de Barack Obama, Biden a pour première conseillère sa sœur Valérie et sa deuxième femme Jill Biden. Ce vieux routier de la politique devrait d'ailleurs avoir le gouvernement le plus féminin de l'histoire des États-Unis, mais aussi le plus diversifié. Pour l'élu afro-américain Jim Clyburn, qui fait partie du comité d'investiture, Joe Biden, longtemps considéré comme un candidat par défaut, est l'homme de la situation.
C'est l'homme qu'il faut à ce moment-là de notre histoire.
Alors que le pays est plus divisé que jamais, sa prestation de serment aura pour thème l'unité. Joe Biden veut se démarquer de son prédécesseur et se pose en rassembleur.
Merci Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Et je rappelle le titre du livre que vous avez écrit, cette enquête avec l'entourage de Joe Biden. Ça s'appelle Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, et c'est aux éditions du Rocher.
On en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h. Le Conseil français du culte musulman a annoncé hier soir avoir approuvé une charte des principes de l'islam de France.
Oui, le texte affirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité, l'égalité homme-femme. Il rejette l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Cette annonce intervient alors qu'une commission spéciale de l'Assemblée nationale commence aujourd'hui l'examen du texte du projet de loi contre le séparatisme.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Même en temps de Covid, il fait et défait la renommée des restaurants. Le guide Michelin dévoilé aujourd'hui.
Et son patron est en direct avec nous.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Tout est chamboulé depuis un an, mais il y a quelques repères qui demeurent. En voilà un, plutôt inattendu. Ils consacrent chaque année des restaurants pour l'excellence de leurs mets et de leurs services. Tout à l'heure à 13h, le guide Michelin 2021 va bien être publié. La preuve, son directeur international est en direct sur Europe 1.
Bonjour Gwendal Poulounek.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Un guide Michelin en 2021, alors que les restaurants ont été fermés 3 mois au printemps, puis à nouveau depuis fin octobre. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous êtes assis à table et que vous avez goûté des plats ?
Oui, comme tous les ans, et je dois vous dire que nos inspectrices et inspecteurs ont réalisé cette année le même nombre de repas que les années précédentes. Mais vous savez, ça fait des mois que les restaurants se battent sans relâche au rythme des fermetures et des ouvertures. Et pour le guide Michelin, plus que jamais, il nous tenait particulièrement à cœur d'honorer ce rendez-vous que nous avons tous les ans avec les chefs, leurs équipes et bien entendu tous les amoureux de bonne table.
Mais comment vous avez pu goûter alors les plats ?
Ben, nous avons pris exemple sur les chefs. Nous nous sommes adaptés à la situation et nous avons fait preuve et nos équipes ont fait preuve d'un investissement exceptionnel pour être sur le terrain chaque jour d'ouverture des restaurants en décalant leurs congés sur les périodes des confinements et puis aussi en bénéficiant du renfort de leurs collègues, des inspectrices et inspecteurs internationaux pour réaliser cette année autant de repas que les années précédentes ne pas modifier nos critères, assurer l'application de notre méthode, parce que c'est ce qui fait la force des recommandations du Guide Michelin. Et vous savez, la reprise dans la restauration, c'est les clients qui vont la faire. Il faut leur donner envie d'y retourner. Les chefs n'ont pas démérité, voire même ils se sont surpassés cette année. Il faut continuer à entretenir cette envie, parce que la pérennité des restaurants dépendra de l'envie des clients d'y retourner.
Mais pardonnez-moi cette question, est-ce qu'on a vraiment intérêt à acheter ce guide Michelin 2021 alors que pour l'instant les restaurants sont fermés et ça semble malheureusement parti pour durer ?
Alors vous savez, malgré une année noire, il n'était pas question pour nous de faire un millésime blanc, sans mouvement ni promotion, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la scène culinaire française cette année. Beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'ouvertures, des projets qui ont aussi abouti dans l'année, même s'ils avaient été lancés les années précédentes, et beaucoup de talents qui ont émergé. Nous avons une très belle promotion à partager, plus de 57 nouvelles étoiles, avec donc une vraie diversité sur l'ensemble du territoire français. Donc la scène gastronomique française est intéressante et peut-être même plus intéressante que jamais, parce que certains mouvements s'accélèrent au travers de la crise que nous venons de traverser. Et je veux par exemple parler de la prise en compte du durable, du responsable dans la gastronomie. Pendant les périodes de confinement, vous savez, les chefs, et pour la première fois peut-être depuis longtemps, ont du temps de réflexion et du temps pour passer à l'action. Donc en soignant davantage leur approvisionnement
auprès des producteurs,
voilà, en étant vraiment attentifs à toute cette démarche auprès de l'environnement local et en travaillant aussi sur la réduction des déchets gastronomiques tout en assurant l'excellence de leur table.
Merci Gwendal Poulenec, directeur international du Guide Michelin, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct. Les révélations, les nouvelles étoiles décernées, c'est tout à l'heure à 13h.
Et on ne va rien dire pour l'instant, mais notre reporter Pierre Arbulot était dans la cuisine d'un restaurant quelque part en France quand le téléphone a sonné.
Je souhaitais vous passer cet appel pour vous faire savoir que vous allez recevoir une première étoile dans le guide Michelin 2021 à paraître lundi.
Ah bah vous entendez ce sursaut, hein. Vous saurez de qui il s'agit tout à l'heure en écoutant le journal de 13h d'Europe 1.
Ça c'est du teasing. Merci beaucoup François Giffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.